Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Débutée le 24 février 2022, l'opération spéciale en Ukraine a brisé bien des mythes qui s'étaient établis depuis la fin de l'Union soviétique en 1991. Elle a aussi bouleversé les relations en Europe et revu également les relations entre l'Europe et l'OTAN, ainsi que le rapport à la Russie. Nous allons donc voir au cours de cette émission cet effondrement des mythes, ce que change la guerre en Ukraine, et essayer également de comprendre ce que pense Vladimir Poutine, ses objectifs, sa pensée politique pour la Russie. Pour ce faire, nous allons en parler avec mon invité, Gaël Moulek. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à notre micro. Vous êtes docteur en histoire contemporaine. Vous avez été en poste à l'OTAN. Vous travaillez sur l'histoire russe et soviétique et vous êtes chercheur associé à la chaire de géopolitique de l'école de commerce de Rennes. Et vous avez publié récemment deux ouvrages importants. Un ouvrage d'analyse de l'Ukraine, qui s'intitule donc « Ukraine, la fin des illusions », qui est paru aux éditions SPM. Et un autre ouvrage tout aussi important, qui est un immense travail, je vais y revenir, qui est une publication, une traduction et publication des discours de Vladimir Poutine prononcés entre 2007 et 2022. Là aussi paru aux éditions SPM et comme à chaque fois, les références des ouvrages sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Alors ouvrage important que celui des discours parce que en géopolitique, on a besoin de sources, on a besoin d'éléments tangibles pour analyser, pour réfléchir et disposer des discours prononcés par Vladimir Poutine au cours des 15 dernières années, entre 2007 et 2022, permet de voir, de comprendre quels sont les thèmes qu'il a abordés, comment il les a abordés. Alors évidemment, un discours politique, c'est un discours politique. Donc il faut le prendre avec le recul et la critique nécessaire. Néanmoins, ils disent quelque chose, puisque le discours veut dire. Et il montre en tout cas ce que Poutine veut que l'on entende de lui et ce que l'on comprenne de lui. Donc, un ouvrage essentiel si l'on veut véritablement rentrer, peut-être pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais au moins dans la parole de Vladimir Poutine. Première question, Gaël Moulek, à la lecture de ces discours entre 2007 et 2022, est-ce que se manifeste une pensée cohérente? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe une pensée poutinienne, un poutinisme également, peut-être d'ailleurs, qui le définit, qui le caractérise?
Alors je dirais que le terme de pensée est peut-être un peu, non pas exagéré, mais ne recouvrerait pas cet ouvrage. Cet ouvrage se contente, si on peut dire, de donner au lecteur français la possibilité de s'informer, de prendre connaissance sans charcutage, sans vision établie et préalable, je dirais, de ce qu'a pu dire Vladimir Poutine. Alors est-ce qu'il le pensait? Là, je n'irai pas jusque-là, je ne le sais pas moi-même s'il le pensait. Ce que je sais, c'est qu'il l'a dit et qu'il n'a pas été réellement entendu. C'est la première chose. Et comment se manifeste donc ce dit de Vladimir Poutine? Eh bien, le constat et le socle de la pensée poutinienne, ou du moins du dit poutinien, reste le même tout au long des années qui s'écoulent de 2007 à 2022. Chaque nouvelle péripétie, jusqu'à l'intervention en Ukraine, semble confirmer deux postulats. Le premier, dans ce qu'il dit, est que l'Occident n'accorde pas une place suffisante à la Russie dans le monde, et second postulat est que l'Occident est trop attaché à son confort matériel et intellectuel pour se lancer dans une réelle confrontation avec la Russie. Voilà, c'est ce qui ressort exactement de ces divers textes, avec aussi, les années passant, l'amertume qu'il y ait écrit, que l'on ressent, du fait que la Russie n'est pas autorisée à prendre cette place qui, pour Poutine, est primordiale.
Quand il parle de l'Occident, est-ce que c'est pour lui une définition géographique ou est-ce que c'est plutôt une idée ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière Occident ? C'est uniquement les États-Unis ou ça, c'est les États-Unis et Europe ?
Alors, c'est pire. Ce sont les États-Unis et ses vassals européens. Voilà, pour que les choses soient claires. Petit à petit, et les dernières déclarations à la fois de Merkel et de Hollande ont montré, au moins pour lui, que l'Europe n'avait pas de politique indépendante et qu'en réalité, si on voulait régler les vraies questions, les questions qui fâchent, les questions qui se posent, c'est directement avec les États-Unis qu'il fallait en parler et tenter de s'entendre. Que les Européens n'étaient là que comme, je dirais, des pions plus ou moins malléables dans les mains des États-Unis, les plus malléables étant bien évidemment les nouveaux membres, que ce soit les nouveaux membres de l'OTAN ou les nouveaux membres de l'Union européenne, les membres moins malléables, mais ayant quand même une très faible possibilité d'action indépendante, étant les anciens pays de l'Union européenne et de l'OTAN, donc des pays avec lesquels on peut tenter des choses, mais la stabilité, ou je dirais la parole n'est pas aussi forte et n'est pas indépendante vis-à-vis des États-Unis.
Alors s'il se positionne par rapport à l'Occident et s'il définit l'Occident, est-ce qu'il définit également la Russie et ce qu'elle devrait être ? Quelle est, quand on écoute, quand on lit ces discours de Poutine, quelle est la définition, quelle est l'image de la Russie qu'il donne ?
Alors je reprendrai non pas ce qui a été mis dans ces documents, mais c'est à un moment un reportage à la télévision où il demandait à un garçon où étaient les frontières de la Russie devant une grande carte d'école, et le garçon citait à peu près exactement les diverses frontières de la Russie, à la fin Poutine concluant comme quoi la Russie n'a pas de frontières. Ce qui laisse penser, non pas d'une expansion territoriale, je pense qu'il a dit une fois, j'ai 9 fuseaux horaires, donc est-ce que vous pensez vraiment, quand je traverse le pays, est-ce que vous pensez vraiment que j'ai besoin de terre ? Non, ce qu'il essaye de faire, c'est de réunir au moins les Russes qui sont dans les anciennes républiques. Au moins. Bon, peut-être certaines terres, ou certaines terres qu'il pense russes, comme par exemple la Crimée, ou une partie de l'Ukraine, complémentaire de l'Ukraine.
Donc on serait dans ce qu'on appelle en géopolitique un panisme, c'est-à-dire cette sorte de pan-russisme d'intégrer les Russes au territoire de la Russie.
Ben, pour lui, c'est la plus grande population de diaspora, d'après sa vision et d'après ses calculs. Je crois que plus de 25 millions de Russes sont en dehors des frontières de la Russie, la Fédération de Russie. Voilà.
Et pourtant, dans cette fédération, il n'y a pas que des Russes. C'est un peu l'aspect complexe de la Russie. C'est que c'est à la fois le pays des Russes, mais il y a aussi d'autres populations. C'est aussi un empire.
Alors, un empire, c'est une coexistence de peuples, de plus de 180 peuples, je crois, différents. Et donc, en termes en russe, si vous voulez, vous avez bien évidemment la différence entre ce que nous appellerions des Russes par la nationalité, et puis des Rassian, donc des Russiens, si on peut dire, c'est-à-dire des gens qui vivent en Russie, mais qui ne sont pas d'ethnie russe. Donc vous avez bien évidemment cette différence, mais cette différence, elle a pu être oubliée, elle a pu se masquer, ou plus exactement disparaître, dans les grands événements de la Russie, ou de l'Union soviétique en particulier, durant la guerre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus l'Occident fera pression sur la Russie, plus les Russes ou les Rassian qui vivent en Russie auront une tendance à se réunir. Et c'est là que l'Occident fait peut-être une erreur, c'est de penser que toute pression sur la population conduirait à des morcellements ethniques.
Et comment est-ce qu'il voit les autres régions de la Russie ? Parce que là, avec la guerre en Ukraine, on est très centré évidemment sur l'Ukraine, le Donbass, la Crimée. Enfin, il y a aussi la Sibérie, il y a Vladivostok. D'ailleurs, il a fait un discours très intéressant en juin 2022 à Saint-Pétersbourg et également à Vladivostok. Comment il perçoit ces régions, le Grand Nord, la Sibérie, la région d'Asie centrale également ?
Donc moi, ce que je dirais, c'est cette question est pour moi est étonnante. Je dirais simplement parce que ces territoires sont russes depuis des siècles. Donc, en partie la Sibérie et le Grand Nord, qui font partie de l'Empire tsariste, ou l'Empire russe ou tsariste, dès le XVIe, XVIIe siècle. De plus, ils ont fait l'objet de la plus grande attention durant l'époque soviétique, avec la création même de villes, et n'oublions pas que nombre des oligarques russes actuels doivent leur richesse à des investissements qui ont été faits dans ces régions à l'époque du pouvoir soviétique. Ces réalisations ont été quasiment données à des proches du pouvoir depuis les années 90, bien évidemment. Les années Yeltsin ont lancé ce processus. Les années Poutine, je dirais, l'ont simplement réorienté, ordonné, mais sans jamais revenir dessus. Donc ces régions sont obligatoirement russes, parce que nous, on les voit comme périphériques, alors qu'elles fondent elles-mêmes la Russie. Rappelons-nous l'attaque contre Moscou de l'hiver, l'automne-hiver 41, qui est déjouée par l'arrivée de troupes sibériennes. Voilà, donc c'est un vrai pays, ce n'est pas des régions éloignées ou que nous considérons bien évidemment comme éloignées. Elles sont difficiles à entretenir, elles sont difficiles à exploiter, mais elles sont historiquement dans la pensée et dans la vision de tout Russe, donc y compris Poutine. Il ne faudrait pas les traiter comme des territoires d'outre-mer, si vous voulez, c'est pas du tout ça. Ce sont des territoires par essence russes, puisqu'ils ont été colonisés ou habités, je dirais, de façon plus soutenu par des populations russes, ou des populations soviétiques au temps de l'Union soviétique.
Alors vous dites que pendant l'Union soviétique, ça a été l'objet d'une grande attention, notamment face aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une attention par rapport à la Chine ? On sait que certes, ces territoires sont russes depuis longtemps, mais ce sont des espaces vastes et démographiquement peu peuplés.
Tout à fait.
Face à une masse démographique qui, elle, est forte, et on sait qu'il y a des incursions à la frontière de Chinois qui, ici ou là, vont dans cette région-là. Est-ce qu'il y a cette crainte ?
Alors, ce ne sont pas des incursions, ce sont des arrivées programmées, et nous avons affaire à quand même deux pays qui savent plus ou moins, je dirais, réguler leur immigration. Et donc, ces transferts ou ces arrivées de population sont gérées, plus ou moins, bien évidemment, la partie grise est toujours présente dans ce type d'affaires, mais je dirais qu'il n'y a pas d'arrivée massive de Chinois. Il y a par contre une volonté des Russes de permettre une certaine arrivée tout en la gérant, puisque bien évidemment, ces régions font preuve d'un désert démographique par rapport à celles de Chine qui sont en face. Mais la question est assez, je dirais, comme vous le notez, est assez prégnante pour que justement les États s'engagent dans des processus qui ne permettent pas une arrivée massive, incontrôlée de populations exogènes.
Et il y a ce port de Vladivostok qui est important puisqu'on est face au Japon, donc la Russie est là dans la partie asiatique. Il y a ce très beau film d'Ersu Sala où on voit d'ailleurs cette découverte du Grand Nord, c'est extrêmement émouvant, et la manière dont la Russie a cartographié cette région. Est-ce que là aussi, est-ce que Vladimir Poutine voit la Russie davantage comme un pays européen, ou je dirais en Europe, donc plutôt tourné vers l'Ukraine, ou est-ce qu'il voit la Russie comme un pays asiatique, donc tourné vers le Japon et la Chine ? Ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui rentre dans ces catégories mentales ?
C'est un peu comme si on disait, est-ce que la France est tournée vers l'Angleterre du fait de la Normandie et de la Bretagne, ou du tout côté de l'Allemagne du fait de l'Alsace-Lorraine, si vous voulez. Non, pour lui, la Russie, de ce que je comprends, hein, bien évidemment, et sans tenter d'aménager sa vision, la Russie est la Russie, et l'emblème de la Russie, c'est un aigle à deux têtes, hein, qui regarde vers l'ouest, l'autre qui regarde vers l'est. Donc l'ensemble est la Russie, et sur chacune de ses frontières, la Russie essaye d'avoir la meilleure négociation pour ses propres intérêts. Elle a été capable, par exemple, de redonner certains territoires à la Chine, de s'entendre aussi avec, par exemple, de l'autre côté, la Norvège, sur les zones de pêche. Donc c'est la vision même de l'entièreté de la Russie, avec des processus de développement, de développement du Grand Nord avec des investissements importants, en espérant deux choses, donc le réchauffement climatique permettra l'ouverture donc de la voie du Nord, avec aussi l'exploitation minière, pétrolière, gazière de ces régions, où plus au sud, je dirais, à Vladivostok, avec l'ouverture de Spor, qui est un port militaire, je suis dans les années 90, c'est donc une ville fermée, hein, l'ouverture de ce port au commerce et à la transaction avec le Japon. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la plupart des voitures, justement, de l'Est de la Russie, l'Extrême-Orient, viennent en réalité du Japon et ont une conduite à droite, alors que en Russie, on conduit à gauche, si vous voulez. Même la plupart des voitures présentes à Vladivostok sont des voitures d'origine, entre guillemets, japonaise, et qui ont la conduite à droite.
Alors souvent, on présente Vladimir Poutine comme un tsar rouge, une manière de le réconcilier à la fois avec l'Empire des Tsars, avec l'époque soviétique. Est-ce qu'il y a des choses qui demeurent de la pensée soviétique chez Vladimir Poutine, qui a été quand même formé à cette époque-là, ou est-ce qu'on est dans autre chose?
Alors, je dirais qu'avec Vladimir Poutine, on est dans, sans que cela ne soit ni une qualité ni un défaut, bien évidemment, on est dans la Russie éternelle. Parce que n'oublions pas que Poutine est un des critiques les plus acerbes de la période communiste, avec la mise en avant de certains des personnages les plus scabreux de l'émigration et de la garde blanche, si l'on peut dire, la mise en avant de certains héros comme Mannerheim, qui était le dirigeant, le dictateur finlandais, qui a encerclé une partie de Leningrad et qui s'est retrouvé avec une plaque à son effigie il y a encore quelques mois en Russie, du simple fait qu'il avait été un général tsariste avant la révolution. Donc on voit que le panthéon de Poutine n'est pas le panthéon où le premier je dirais la première personne reflétée serait Dzerzhinsky, qui a été le créateur et le fondateur de la Tchéka, l'ancêtre du KGB où M. Poutine a travaillé. Ce qu'il faut bien voir de Poutine, c'est que il arrive à synthétiser, je dirais, ce qui a fait la Russie tout au long des diverses périodes, aussi bien tsariste que communiste, mais sans jamais. C'est pour ça que quand vous avez parlé de tsar rouge, quand on parle avec des Russes et quand on écoute Poutine, on comprend parfaitement qu'il est absolument anti-communiste, à la base. Que les communistes aient repris une certaine vision de la grandeur de la Russie, je ne dirais pas les bolcheviks, hein, les communistes au temps de Staline plus exactement, ceux-là, oui, et que Poutine la reprenne à son compte, tout à fait, mais il est cette reprise ne fait en réalité que... je dirais, annoter cette vision communiste d'une grande Russie qui n'est que le découlé, si l'on peut dire, de la vision tsariste. Pourquoi, dans les années 90, les diverses commissions qui ont été mises sur pied pour faire un procès contre le Parti communiste soviétique ont été arrêtées? C'est parce que quand vous recherchiez, justement, ce que j'ai fait en partie dans d'autres productions, dans les archives communistes, vous voyez qu'en réalité, la politique communiste de l'Union soviétique n'était qu'une reprise, une amélioration, une modification, mais une reprise de la politique tsariste, simplement. Donc Poutine comme tsar rouge, non. Poutine comme nationaliste russe, oui.
Alors, il y a un débat aussi sur le positionnement de Vladimir Poutine, notamment par rapport à un courant en Russie qui est très opposé à l'Occident. Je pense notamment à celui qui est incarné par Douguine. Mm-hmm. Comment lui se positionne par rapport à ces gens-là? D'abord, est-ce que ces personnes-là, notamment Douguine et les autres, représentent un courant réellement important en Russie, ou est-ce que c'est uniquement un allié d'optique que l'on a notamment en France? Et comment Poutine se positionne par rapport à eux?
Alors, je dirais tout d'abord, pensons tout d'abord à la fille de Douguine qui a été tuée dans un attentat. C'est quand même une chose importante à noter ici, un attentat commis par les forces spéciales ukrainiennes. Et que Douguine ait une influence, certes qu'il soit le penseur ou le cardinal gris de, de Poutine, non. Il représente une vision de la Russie, il représente une partie de la population russe, mais cette partie de la population russe n'est pas majoritaire, et les actions de Poutine ne reflètent pas ce que cette partie de la population souhaiterait réellement, parce que cette partie de la population souhaiterait que la Russie soit forte, que les oligarques soient en prison, et ce n'est pas obligatoirement la politique suivie par Poutine depuis son arrivée au pouvoir. Donc qu'il y ait certaines affinités, pourquoi pas ? On parle d'un pays, on essaye de faire que ce pays aille mieux, que ce pays ait une certaine puissance. Certains penseurs alimentent ce courant, mais cela ne va absolument pas plus loin. Ce n'est certainement pas le conseiller ni le cardinal gris de Poutine.
Est-ce qu'on peut mesurer la popularité de Vladimir Poutine, en mesurer non pas de manière par les sondages, l'action de la popularité, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut voir notamment par rapport à la population, enfin plutôt comment la population russe se positionne par rapport à lui? On dit souvent qu'il y a un pacte tacite entre la population, enfin entre les Russes et Poutine, en disant que Poutine apporte la sécurité et le développement économique, donc finalement on lui donne un chèque en blanc. Est-ce que c'est vrai?
Alors c'est une vision, je dirais, vraie, mais certainement occidentale. Soyons clairs, depuis les événements de février, une partie non négligeable, je dirais pas importante, mais non négligeable, de la population a quitté la Russie. Qui sont-ils? Donc beaucoup de jeunes, certains jeunes, on parle de 300 000 personnes, qui pouvaient être menacés par les réquisitions de personnes, être engagés dans l'armée, et puis des personnes ayant des capacités techniques, technologiques, mais aussi beaucoup de personnes venant du milieu culturel, du milieu artistique. Donc ces gens-là, bien évidemment, ne sont pas attirés par les propositions, par la position prise par Poutine. Le reste de la population a une approche, je dirais, plus pratique. La première, c'est leur volonté farouche que leur pays ne disparaisse pas. Ils ont déjà vu l'Union soviétique disparaître dans une vie d'homme. Voir disparaître son pays deux fois n'est pas certainement pas agréable. Autre chose, et peut-être malheureusement, il n'y a pas d'autre offre politique sérieuse, stable, clair que Poutine. C'est un peu ça le vrai problème, si vous voulez. C'est que ce qu'on appelle les partis d'opposition officiels, c'est des partis d'opposition et ils sont officiels. C'est-à-dire qu'ils ne représentent aucun danger pour le pouvoir en place. Et puis les partis d'opposition non officiels, bon, connaissent à la fois des ruptures entre les personnes, des divergences d'opinion, et puis aussi, il faut bien l'avouer, des emprisonnements qui, disons, sont basés sur certains faits, sans que ces faits aient obligatoirement pour conséquence l'emprisonnement des personnes. C'est-à-dire que, bon, personne normale faisant certaines choses aura un certain temps de prison, des opposants faisant la même chose auront peut-être des temps de prison un peu plus différents, mais même en France, les jugements dépendent des juges.
Voire même ils sont empoisonnés, ça peut arriver aussi.
Alors ça, c'est une chose qui est particulièrement, je dirais, difficile. Qu'il y ait eu des empoisonnements, c'est vrai, que ces empoisonnements... On peut revenir sur les différents empoisonnements. Le premier, de l'ancien membre du KGB à Londres avec le polonium, après l'affaire Skripal, et puis enfin, nous avons l'opposant, comme dit Poutine sans citer son nom, qui est actuellement en prison parce qu'il est revenu d'Allemagne où il avait été soigné. Mais à chaque fois, si vous voulez, on ne voit pas une politique strictement claire. On voit diverses... tendances, divers groupes s'affrontant autour d'une même affaire, si vous voulez. Si on reprend celui qui a été achevé au polonium à Londres, on voit que certaines des personnes qui ont été accusées se retrouvent maintenant députées. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon? Pour Skripal, les choses sont assez étonnantes, puisque, comme par hasard, les caméras qui suivent les deux, entre guillemets, tueurs russes, s'arrêtent au moment où ils devraient commettre leur méfait. Et puis, on voit donc avec Navalny, certainement pris de troubles, mais on voit aussi que ce même Navalny est autorisé en dehors de toute considération juridique russe à partir à l'étranger pour se soigner, alors qu'il était en libération sous condition. Donc, si vous voulez, c'est pas si simple. Un État qui veut réellement la peau de quelqu'un se débrouille pour que les choses arrivent et pas l'envoyer se soigner. En Allemagne. Donc, qu'il y ait des tentatives, qu'il y ait des sales coups, c'est bien évident. Est-ce que ce sont à chaque fois quelque chose de réellement guidé de A à Z par une seule branche ou un pouvoir vertical? Là, les choses sont certainement beaucoup plus compliquées. N'oublions pas la liaison qu'a la Russie avec Byzance, et que les poisons à Byzance étaient bien connus.
Alors vous citiez la question des partis d'opposition, ça c'est une autre question évidemment laquelle on se pose beaucoup à la fois en France et en Europe, c'est l'après-Poutine. Alors qui lui succédera, je pense pas qu'on puisse le savoir et d'ailleurs pas certain que lui-même le sache, mais c'est plutôt comment pourrait se faire la passation de pouvoir. C'est-à-dire, est-ce que c'est jusqu'à la mort de Poutine et après quelqu'un d'autre, est-ce que lui-même pourrait démissionner, mais surtout qui va décider, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le parti? Est-ce que c'est un parlement? Comment vous voyez, d'un point de vue institutionnel, pourrait-on dire, le choix du futur dirigeant de la Russie?
Ah, institutionnel, et si tout était, inscrit dans le marbre, ce serait le parti dominant, Russie Unie, qui désignerait un candidat aux élections présidentielles, qui aurait le soutien de ce parti, qui serait élu. C'est les choses qui se passeraient normalement. Ce qu'il faut voir, c'est que Poutine ne pouvait pas se représenter, des demandes ont été faites, la constitution a été changée, donc maintenant, en 2024, il peut se représenter. Alors, qui pour sa place? Ben, je dirais que lui-même n'est même plus le décideur. Avec la situation actuelle, ou bien la Russie gagne. Et à ce moment-là, il n'a aucune inquiétude à avoir pour sa réélection, même si les Européens ont décidé que cette réélection ne serait pas légitime et qu'ils ne reconnaîtraient pas, même avant l'élection, cette élection. Ou bien la Russie perd, et là, une politique différente va être prise. Si la Russie perd, eh bien... tout dépend de l'amplitude de cette possible défaite. Si c'est une défaite à plate couture, avec d'importantes conséquences pour le peuple, il est possible qu'il y ait, je ne dirais pas non pas un soulèvement, mais disons des tendances qui fassent qu'il y ait une aile la plus modérée, la plus encline à rattacher à l'Occident qui propose quelqu'un. Et si jamais les choses allaient encore pire, ce serait par contre la mise en place d'un remplaçant qui serait un tenant de la ligne dure. Donc on voit en ce moment, par exemple, l'ancien président Medvedev, qui a toujours été un libéral forcené, même un peu, comment on pourrait dire, naïf, voilà, pour ne pas être insultant, naïf en particulier au moment de la question libyenne, qui se présente désormais comme un nationaliste des plus intransigeants. On voit aussi Dmitri Rogozin, qui était le représentant de la Russie à l'OTAN, qui a aussi été le négociateur avec l'Europe sur Kaliningrad, qui a été le vice-ministre chargé de l'armement et son dernier poste étant le chef de Roscosmos, c'est-à-dire la NASA russe, qui lui aussi tente de faire parler de lui en se replaçant dans sa position habituelle de nationaliste russe, tendance grande Russie, un peu orientée vers le tsarisme.
Alors vous évoquez Medvedev, c'est effectivement un sujet d'étude assez étonnant parce que il a complètement changé de positionnement politique. C'était même quelqu'un d'assez effacé. Et fuyant plutôt centriste effacé. Et là, il a pris une position très surprenante. C'est pour se positionner pour 2024 ou pour l'après ou
Alors, je n'en sais pas plus que vous, je vous dirais franchement, mais pour moi, oui, c'est un retournement. Il a compris que dans la situation actuelle, je dirais que l'épisode libéral de son passé n'est pas ce qui sera retenu de lui. Donc, il essaye de se représenter avec, entre guillemets, une nouvelle virginité vis-à-vis des personnes en proposant des choses qui vont bien au-delà de ce que Poutine n'a jamais fait et même ne proposera. Donc, est-ce que c'est simplement une simagrée? Est-ce que c'est au contraire la montée d'une écurie présidentielle, avec ou non l'autorisation de Poutine? Les jeux sont ouverts, si vous voulez. Je n'en sais pas plus. Mais il est vrai, comme vous l'avez noté, que la place du personnage Medvedev dans la politique russe a complètement changé. Voilà. Est-ce que ça lui portera bonheur? C'est autre chose. Et est-ce que les gens vont croire ce retournement à 180 degrés? Là aussi, la question reste ouverte.
Qu'est-ce qui reste comme allié de la Russie aujourd'hui? On voit le Kazakhstan, on présentait toujours cette Asie centrale comme étant l'étranger proche. Pourtant, le Kazakhstan a accueilli des opposants, des personnes qui ne voulaient pas être dans l'armée russe. Ils les ont accueillis. Le président kazakh a condamné l'invasion de l'Ukraine, tout en restant allié de la Russie d'ailleurs. On voit également dans le Caucase des États, notamment l'Azerbaïdjan, qui se positionnent un petit peu en retrait. Et finalement, autour de la Russie, il n'y a plus que la Biélorussie, peut-être, comme allié.
La Biélorussie, pas mal aussi des questions peu claires avec l'Arménie. La Géorgie, qui n'y va pas vraiment, parce que la dernière fois, ça s'est assez mal passé pour eux. Je dirais que n'oublions pas que l'Asie centrale, les anciennes républiques soviétiques du Sud, voilà, pour faire plus clair, ce n'est pas simplement le jardin de la Russie, c'est aussi désormais le jardin des États-Unis. Donc il est clair que les enjeux ne sont plus simplement le rôle de la Russie dans cette région, mais le rôle de la Russie dans cette région face à l'importance de l'implantation américaine et bien évidemment l'implantation et le développement de l'influence chinoise aussi, en particulier au Kazakhstan. N'oublions pas non plus que en décembre de l'an dernier, en décembre 2021, les parachutistes russes sont venus à la rescousse du pouvoir du Kazakhstan, qui était largement remis en cause. Donc c'est la région du grid game, hein, donc c'est une région toujours dangereuse pour le monde, mais aussi une région d'enjeux entre les puissances, trois puissances, Russie, États-Unis, Chine.
Alors, parmi les passions de Vladimir Poutine, il y a le judo, mais il y a aussi la collection de montres. Il a une collection de montres très importante, de montres de luxe, ce qui montre d'abord ses goûts, certes, mais on sait bien qu'en politique, il y a la question du temps qui est important. Et est-ce que ce collectionneur de montres et de montres de luxe n'est pas en train de perdre la maîtrise de ce temps, justement, à travers cette guerre en Ukraine qui n'a pas évolué comme il pensait qu'elle évoluerait quand il a lancé l'opération?
Alors, ces hobbies ont un peu changé. Maintenant, il y a toujours eu le judo, mais un peu moins avec l'âge maintenant. C'est plutôt le hockey sur glace, avec une équipe présidentielle. Ça s'appelle l'équipe du soir, c'est-à-dire les gens qui font ça en plus de leur travail, si vous voulez, en amateur, et qui, bien évidemment, rencontrent d'anciens grands sportifs, champions olympiques, et qui, bien évidemment, cette équipe gagne toujours. Voilà, mais bon, c'est une chose un peu particulière, mais bon, il faut bien que les grands de ce monde s'amusent comme ils peuvent. La chose sur les mondes, je dirais, si vous voulez, qu'il a tenté quelque chose qui n'a peut-être pas tout à fait marché, mais étant rentré dans cette vision et étant rentré dans cette action, il ne va pas en sortir. Simplement sur le constat que son premier mouvement n'a peut-être pas été rempli du succès attendu. Voilà, ça veut dire que les choses vont continuer, que les choses vont être faites pour que la Russie ne ressorte pas de cette aventure, de ce moment, dans une position pire que celle dans laquelle elle y est rentrée.
Merci beaucoup Gaël Moulec d'être venu au micro de Conflit pour nous parler, décrypter la Russie de Vladimir Poutine. Je rappelle vos deux ouvrages, donc Ukraine, la fin des illusions et une traduction des discours de Vladimir Poutine prononcés entre 2007 et 2022, tous les deux publiés aux éditions SPM. Merci beaucoup pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux chaque mois à nous écouter. Pour permettre à Conflit de vous fournir ce contenu en accès libre, eh bien, la meilleure manière de nous soutenir est de vous abonner. En vous abonnant sur notre site revueconflit.com, vous nous permettez ainsi de continuer à nous développer. Vous abonner, c'est soutenir Conflit. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien, vous pouvez abonner vos proches, offrir des cadeaux qui sont des beaux cadeaux de géopolitique. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.